Bonsoir Tony Estanguet.
Bonsoir.
Alors, j'ai pas l'habitude. Nous sommes avec vous pour ce livre qui s'appelle Par amour du sport aux éditions Calman Lévy. Qu'est-ce que vous devez à votre maman ?
Tout. Je lui dois tout. Elle est pas loin en plus, donc il faut que je fasse attention à ce que je dise.
Non, mais vous pouvez détailler, parce que dans votre livre, vous revenez sur votre maman. Moi, j'aimerais bien que vous détailliez ça. Qu'est-ce qu'on doit à sa maman quand on a une carrière aussi extraordinaire que la vôtre et qu'on finit par écrire un livre comme celui-là ?
Ben justement, je pense que ce livre, c'était aussi l'occasion de, un, de lui dire et moi, de me rendre compte aussi de tout ce qu'on doit à ses parents et à sa maman. Moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'être dans cette famille où elle a joué un rôle très important puisque ben, depuis tout petit, voilà, elle a su... je vais dire me donner, j'ai envie de dire nous donner, parce que je pense que j'ai deux frères pour lesquels elle a aussi joué un rôle très important. Mais je vais parler pour moi. Et donc voilà, j'ai une relation très, très importante avec elle, parce que dans toutes les étapes que j'ai rencontrées, elle a toujours été là pour remettre le sens des priorités, relativiser les choses, mais quand même m'accompagner aussi dans mes rêves. Je pense que... j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, dans cette famille de pouvoir me mettre au défi, de relever des défis toujours plus ambitieux et d'avoir cet amour, cette bienveillance, cet accompagnement au plus proche qui, finalement, voilà, on m'a jamais dit stop, on m'a jamais dit tu vas pas y arriver, on m'a toujours un peu accompagné. Me laisser un peu dans mon utopie que c'était possible. Mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était pas forcément évident. Et donc, je dois beaucoup à ma maman qui a rendu cette histoire possible et qui venait pas du sport de compétition, qui venait pas du sport de haut niveau. C'était pas ça qui était important pour elle. Ce qui était important, c'était qu'on soit bien dans notre peau, qu'on réussisse, qu'on soit heureux, qu'on avance. Et il n'y avait pas de jugement de valeur sur des résultats, sur des étapes. C'était plutôt est-ce que tu as bien mangé ? Est-ce que tu es reposé et est-ce que tu t'amuses et cette voilà, c'est cette bienveillance permanente, ça a été pour moi le moyen aussi de tenir bon jusqu'au bout, quand bien même j'ai traversé des moments un peu de doute et des moments difficiles, parce que quand on se met au défi de faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, on rencontre des difficultés. On s'attaque un peu à des montagnes et on se demande si on va y arriver. Et donc, dans ces moments-là, il y a peu de gens à qui on peut se confier, il y a peu de gens à qui on peut, verbaliser des choses. Et en fait, ce qui est bien avec ma mère, c'est que j'ai pas besoin de lui verbaliser. Elle le sent tout de suite quand il y a quelque chose qui va pas. Donc, elle a toujours eu un peu cette disposition un peu rassurante et bienveillante pour m'accompagner et pour que je puisse continuer d'avancer.
Et passer cet hommage assez émouvant et extraordinaire de ce coach hors du commun, vous racontez qu'à 14 ans, vous êtes devant une télé en famille et qu'à ce moment-là, vous vous dites « c'est ça que je veux faire ». C'est votre frère dont il est question à ce moment-là, qui gagne une médaille. Et vous dites aussi que finalement, vous attelez au sport de haut niveau, vous faites vous rendre compte que l'excellence n'a rien à voir avec l'âge.
Oui, c'est vrai que, bon, désolé, mais c'est vrai que moi, je me suis beaucoup appuyé sur mon expérience au sport. Et c'est le sport qui m'a fait comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et c'est vrai que cette étape de voir mon frère gagner une médaille olympique alors que j'ai 14 ans, ben, c'est un peu un double déclic, ce que je raconte dans le livre. C'est un déclic parce que si mon frère l'a fait, pourquoi pas moi ? Après tout, jusque-là, je ne connaissais personne dans mon entourage qui avait fait les Jeux Olympiques et ça paraissait un peu inaccessible. Mais à partir du moment où quelqu'un de sa famille le fait, tout devient possible. Et deuxièmement, ce jour-là, mon frère est battu par un adversaire qui était dans ma catégorie. Et donc il y a entre guillemets 5 ans de moins que mon frère. Mais et donc ce jour-là, je comprends que on se met nous-mêmes des fois des limites. On se met dans des cases en se disant bon ben là je suis cadet, je ne vais pas jouer avec les seniors. Il faut d'abord que je joue avec les cadets, peut-être un peu avec les juniors, mais sûrement pas avec les seniors. Et en fait ce jour-là, ben Michal Martikan, le Slovaque, l'emporte, devient champion olympique alors qu'il n'est que cadet. Et donc là, c'est aussi voilà, ça a un effet aussi très important. Et je me fais la promesse que à partir de ce jour-là, c'est pas tant l'âge qui compte, c'est l'envie, c'est l'engagement, la détermination, le travail qui vont faire la différence, mais que je n'ai plus le droit de me dire que j'ai le temps. J'ai plus le temps en fait. Il faut que maintenant je fonce et que j'avance parce que s'ils l'ont fait tous les deux ce jour-là, ben il n'y a aucune raison que moi je dise j'ai le temps de avant de le faire.
Et pour tout cela, vous racontez très bien dans votre livre que on comprend plutôt entre les lignes qu'il faut mettre les émotions de côté, que ça c'est pas votre meilleur allié, les émotions. Et donc vous racontez aussi que maintenant, maintenant que tout ça est un peu derrière vous d'une certaine façon, vous pouvez y aller. Mais donc ben le choix c'est celui-là, c'est de mettre de côté des ressentis qui pourraient prendre trop de place.
Bah en tous les cas, moi c'est vrai que dans ma vie j'ai plutôt essayé de scinder les choses. J'avais l'impression que c'était plus facile à gérer quand j'arrivais à mettre un peu les émotions de côté. Parce que ben voilà, des montées d'émotions, de stress, de même des émotions positives, d'envie, d'excitation. Des fois, moi, ça me déconcentrait et j'étais meilleur quand j'arrivais à rester calme, à rester concentré sur l'objectif, à faire ce que j'avais appris à faire à l'entraînement. Et donc, voilà, j'étais plutôt dans cette routine. De me dire les émotions, c'est pour après la compétition, quand la ligne d'arrivée est franchie, là on peut relâcher et voilà, et laisser monter les émotions. Mais dans l'action, j'étais meilleur quand j'étais concentré encore une fois sur les tâches méticuleuses qu'il fallait faire et ne pas me laisser envahir par les émotions. Et ce livre, finalement, en me replongeant sur toute cette histoire, parce que finalement, ce mécanisme de laisser un peu les émotions de côté, bah, je l'ai reproduit en tant que patron des Jeux de Paris 2024. J'avais cette conviction que je serais meilleur aussi si je laissais un peu les émotions de côté et que j'étais là aussi concentré sur mon travail. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter, à écrire ce livre, parce que bah, j'ai été obligé, au fur et à mesure que je me replongeais dans toutes les étapes, à essayer de retrouver dans quel état j'étais à ce moment-là. Parce que même si je ne les verbalisais pas, ces émotions, elles étaient là, bien évidemment. Et quelque part, ce livre, voilà, c'était aussi pour moi une vraie chance, parce que ça m'a permis de me rendre compte de l'importance qu'ont joué mes proches dans toute cette aventure, de comment j'ai réussi, moi, à grandir. Ma vie, elle a quand même changé avec Paris 2024. Enfin, quand je dis ma vie, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je pense que je suis plus le même homme, parce que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai rencontré, ça a été très puissant. Et
ça a changé quoi?
Bah, je pense qu'aujourd'hui, j'ai à la fois pas changé dans le sens où j'aime toujours vivre à Pau, j'aime toujours les mêmes choses, faire du sport avec mes enfants, avec mes frères, avec voilà, ce territoire que j'aime beaucoup, dans lequel je me sens bien. Et en même temps, j'ai l'impression de plus être le même homme, parce que ce que j'ai vécu, ben, j'ai le cuir un peu plus épais. J'ai subi énormément de critiques, beaucoup de violences. Voilà, j'ai vécu des situations un peu de crise, entre guillemets, qui m'ont aussi fait découvrir que dans la vie, ben, on est capable de faire des choses qu'on ne pensait pas capable de faire. Et moi, Paris 2024, ça a été ça pendant 10 ans, où régulièrement, je me suis retrouvé confronté à des situations un peu de crise, de difficultés financières, de difficultés politiques, de difficultés sportives, à me dire, mais là, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va gérer? Comment est-ce qu'on va trouver cette sortie de crise? Et ben, en travaillant avec des équipes, avec des experts, en demandant des conseils, ben, je me suis retrouvé à gérer des crises pour lesquelles j'avais peu d'expertise. Mais ma vie, elle a changé dans le sens où j'ai découvert plein de facettes que je n'avais jamais vraiment développées.
Vous êtes sorti de l'eau, quoi, en gros.
Je suis sorti de ma zone de confort. Et clairement, ouais, j'ai commencé à marcher et à courir, quoi.
Parce oui, c'est que... ça. Et surtout, vous êtes mis à finalement à faire équipe. Et c'est ce que vous racontez dans votre livre. C'est que vous dites, ah, mais jusque-là, moi, j'étais quand même dans un sport assez confidentiel. Le canoë, c'est l'eau, quoi. D'ailleurs, en fait, des analogies qui sont assez rigolotes, puisque vous dites, quand on est dans un canoë, il faut apprendre à faire avec les mouvements de la rivière et ne pas les contrer. En fait, ça pourrait s'appliquer au JO.
Oui, au JO et à la vie.
Et la vie tout court, absolument.
D'une manière générale, voilà.
Mais là, tout d'un coup, vous êtes plongé dans autre chose, c'est un travail d'équipe monumental.
Exactement. Là, on comprend assez vite que le projet est tellement grand que vous ne pouvez pas le maîtriser complètement, que vous êtes obligé de faire confiance, de déléguer, même si, voilà, à la fin, moi, j'étais le responsable de l'organisation et ma responsabilité était engagée. Ben, il y avait peut-être, je sais pas, j'allais dire 80% du projet pour lesquels je ne pouvais pas maîtriser ce qui allait se passer.
Et c'est ça qui a changé le plus, c'est que tout d'un coup vous ne pouviez plus être dans le contrôle.
Exactement. C'est moi, ça. C'est exactement ce que j'ai ressenti à travers ce projet et pour ça que j'ai changé, c'est que jusque là j'avais appris à être un expert de mon sujet et à contrôler quasiment voilà tous les paramètres.
Oui.
Parce que pendant 90 secondes en canoë et kayak, voilà, il fallait aller vite et je m'entraînais pendant 4 ans pour maîtriser cette manche de 90 secondes et essayer de tout contrôler. Là, assez vite, je comprends qu'il va se passer tellement de choses que je ne vais pas contrôler grand-chose. Mais mon travail, ça va être de contrôler les choses les plus importantes et de faire en sorte que le projet avance toujours dans la direction où je veux qu'il avance et que moi, il y a des décisions sur lesquelles il faut que je pèse parce que elles seront peut-être plus importantes que d'autres.
Et alors, vous avez appris quoi? À faire confiance?
J'ai appris à déléguer, j'ai appris à faire confiance, j'ai appris que finalement, on grandissait aussi en étant dans ce partage de responsabilités. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu touché du doigt en tant qu'athlète. Parce que athlète, vous êtes quand même obligé de construire une relation de confiance avec un entraîneur, avec des partenaires d'entraînement. Quelque part, tout ce que j'ai vécu à Paris 2024... Je l'avais déjà un peu vécu en tant qu'athlète, parce que en tant qu'athlète, j'avais appris à être très ambitieux, j'avais appris à aussi travailler en équipe, j'avais appris à garder l'autonomie. Enfin, il y a un temps pour la préparation, il y a un temps pour l'action. Enfin, toutes ces notions-là, je les avais déjà un peu côtoyées en tant qu'athlète, mais en tant que président de Paris 2024, tout ça a pris une autre dimension, une autre proportion Et moi, ça m'a aussi révélé de finalement, on se met dans des cases, mais on est capable de faire des choses vraiment hors normes quand on s'en donne les moyens et quand on autorise à se faire accompagner aussi.
On a l'impression aussi que vous découvrez, nous avec vous, hein, par la même occasion, en lisant votre livre, que vous découvrez les a priori sur la France, par exemple, dont vous dites, alors les anglo-saxons, ils aiment bien se projeter pour quelque chose de très fantastique. Les Français sont plus prudents, d'abord ils préparent, ils réfléchissent. En même temps, ils sont regardés par les autres pays comme des gens qui ont un administratif qui déborde, il y a trop de gens qui donnent leur avis. Donc, vous nous invitez aussi à regarder de quoi on a l'air pour les autres pays. Ça, c'était une découverte pour vous?
Bah, je ne sais pas si c'était une découverte. En tous les cas, moi, ce que j'ai l'impression, ce que je raconte dans le livre, j'ai l'impression que ce projet, c'est quand même finalement une photographie de la France aussi. C'est-à-dire que culturellement, on est dans un pays de râleurs, on est dans un pays qui aime bien avoir un avis sur tout. Même quand on a peu d'expertise, on a un avis dans ce pays. On aime bien se diviser, on aime bien regarder tout ce qui ne va pas. Voilà, on est très très bon pour déceler tout ce qui ne va pas dans le pays. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a aussi cette capacité dans ce pays, de temps en temps, à switcher, à basculer et à se retrouver quand même sur des valeurs fortes, communes. Et il y a eu aussi un sentiment d'unité dans le pays que moi, je n'avais jamais vécu sur d'autres jeux dans d'autres pays. Donc, quelque part... là où peut-être dans d'autres pays, on a moins cet esprit de division, on a peut-être aussi moins cet esprit d'unité sur les temps qui comptent vraiment, qui sont très importants. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on soit fiers aussi de ce qu'on est, de notre culture. Je trouve ça chouette aussi que tout le monde ait un avis sur tout. Ça permet aussi d'être sûr que sur un sujet, on ne va pas passer à côté de toutes les idées. On aura fait le tour de la question. Mais c'est sûr que voilà, ce que je raconte, c'est que il y a un risque aussi à toujours regarder ce qui ne va pas. Et je crois que la confiance, et ça, c'est quelque chose aussi que moi j'ai appris quand j'étais athlète. Quand on est athlète, on est confronté à des situations difficiles, dans des compétitions, on ne gagne pas tout le temps, on perd plus souvent qu'on ne gagne. On est à l'entraînement aussi à essayer de travailler des points faibles et des choses qu'on ne fait pas bien. Et donc, il y a cette frustration un peu de la gestion de l'échec. Ce que j'ai appris, c'est que dans des phases, dans des temps forts, il faut aussi se mettre en situation de réussite. C'est-à-dire que pour être très fort le jour J, il faut avoir en amont développer quand même des moments de confiance où on est en réussite. Si on est tout le temps en échec, c'est très difficile le jour de la compétition d'être en réussite. Donc il y a cet équilibre à trouver pour ne pas être tout le temps dans la réussite parce qu'en fait on fait des choses trop faciles et que du coup on va pas vraiment se mettre dans sa zone d'inconfort pour essayer de développer des habiletés qu'on n'a pas forcément. Mais à l'inverse, si on est tout le temps dans des objectifs trop difficiles, ben on accumule de la frustration, on accumule un peu de la perte de confiance. Et du coup, c'est très difficile derrière de vraiment déclencher ce qu'on a de mieux en soi. Donc,
Et on voit bien, quand vous l'écrivez et quand vous me répondez là maintenant, que le sport a vraiment guidé votre façon d'être au monde, quelle que soit la situation. Vous dites aussi qu'il faut bien connaître ses adversaires. Et vous parlez de Los Angeles, entre autres, qui postule en disant que leur slogan est génial. Leur slogan dit « Suivez le soleil ». Et vous dites « Bah oui, ça c'est un slogan génial », puisque c'est effectivement tout Los Angeles est dans cette phrase. Mais quelques temps après, paf, Trump est élu. Ah bon, bah alors là, on est déjà plus tranquille parce qu'ils ont perdu quelques points. Et donc, vous racontez comment on s'observe. Et ça, c'est vraiment une expérience de sportif aussi.
Oui, exactement. Moi, j'ai appris. C'était un univers. C'était bien de commencer par la phase de candidature où l'objectif c'était de gagner, parce que du coup, j'avais déjà l'impression d'être dans un univers que je connaissais un peu, même si c'était une autre compétition. Ça avait rien à voir avec le canoë kayak. Il fallait gagner l'obtention des jeux. Il y avait des dimensions déjà politiques, économiques, dans différentes dimensions. Mais il y avait quand même un objectif commun qui était de gagner. La France avait candidaté 5 fois. On avait perdu 5 fois. Là, la France recandidatait pour la 6e fois et le seul objectif, c'était de gagner. Et quelque part, quand je suis arrivé là-dedans, première étape, c'était de dire c'est quoi nos points forts et quels sont les points forts de l'adversaire? Quels sont nos principaux adversaires? Notre seul objectif, c'est d'être meilleur qu'eux. C'est pas d'être de vouloir faire un projet d'abord dans un premier temps extraordinaire, parfait. Moi, j'étais très pragmatique. L'objectif, c'était de gagner. Et donc, on s'est mis dans cette situation de se comparer aux Américains et d'essayer d'identifier ce sur quoi on pourrait faire la différence. Quand on est athlète, on apprend à se dire, mon objectif, c'est juste d'être un tout petit peu plus rapide que l'adversaire. Et tant pis si je fais une erreur à la porte 4. L'important, c'est qu'à la fin, à la ligne d'arrivée, j'étais le plus rapide que les autres. Donc, on apprend aussi à gérer des petites difficultés, des petits échecs.
Je fais une petite pause, par exemple, pour la porte 4. J'invite les téléspectateurs ou les gens qui sont dans la salle à regarder une de vos vidéos où vous passez des portes en canoë-kayak. Ce n'est pas une vraie porte, je précise. on ne sait jamais. Dans cette réflexion que vous avez sur la position de la France, vous dites des choses très jolies. Vous dites que finalement, votre dossier technique est vraiment très bon. Et puis, il y a deux choses, alors là, qui vous échappent un peu. La première, c'est que Paris, c'est beau. Et la deuxième, c'est que vous vous rendez compte, en préparant vous dites la plus grande fiesta du monde, ce qui a le mérite d'être amusant comme réflexion sur les JO, vous vous rendez compte que la France a ce petit truc en plus, insaisissable. Ça, vous vous rendez compte parce qu'il se passe des choses qui arrivent comme ça, et notamment autour du ping-pong.
Autour du ping-pong.
Oui, vous racontez. Ah, vous vous souvenez pas ?
Non.
Vous racontez que le champion de ping-pong, à un moment donné, prend une raquette. Vous vous souvenez pas de cet épisode ?
Non.
Bon. Alors, c'est pas... Mais vous l'avez écrit quand même. Vous racontez à un moment donné dans le livre qu'il y a des moments de magie, puisqu'il y a des athlètes à différents moments qui apparaissent tout d'un coup et qui sont capables d'improviser, et notamment un champion de ping-pong. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que finalement, on a l'impression que vous tombez amoureux de Paris pendant cette préparation.
Oui, alors déjà pendant les Jeux, vraiment, parce que pendant les Jeux, il y a quand même cette alchimie qui est remarquable et qui fait que le lendemain de la cérémonie d'ouverture, ce que je raconte beaucoup, c'est qu'il y a eu quand même cet avant et cet après cérémonie d'ouverture. Pendant une douzaine d'années, on nous a expliqué qu'on ne gagnerait pas face aux Américains, qu'on n'arriverait pas à organiser une cérémonie en ville, qu'on n'arriverait pas à nager dans la Seine, qu'on n'arriverait pas à équilibrer le budget, qu'on n'arriverait à rien, en gros. Et que Paris n'était plus Paris. J'ai quand même entendu ça aussi. Et que du coup, ça n'a plus beaucoup de sens de faire les Jeux à Paris. Enfin, on entend tout et son contraire. C'est vrai que moi, j'ai été fasciné par la beauté de cette ville, y compris pendant les Jeux, et je raconte dans le livre que le début des constructions des infrastructures dans Paris-Centre, alors d'un côté, on sentait bien que ça agaçait beaucoup les Parisiens, parce que c'est vrai qu'on a petit à petit quand même bloqué pas mal le centre-ville de Paris, donc on a mis un peu le bazar dans la circulation, mais c'était tellement beau, c'était tellement magique de voir tous ces monuments sublimés par des infrastructures sportives et voilà, ce look, parce qu'on appelait ça comme ça, mais le côté esthétique des infrastructures, les couleurs qu'on avait choisies. Bon, quand on choisit ces couleurs, on les choisit sur un ordinateur, on fait des prévisions un peu de design. Bon, et quand on voit les premiers chantiers commencer et voir les couleurs se mettre sur les sites, il y a une émotion très forte parce qu'on a l'impression de ne pas du tout dénaturer la ville, au contraire, d'être au service du rayonnement de ce pays. Et c'est vrai qu'on a quand même, je crois, beaucoup de chance d'avoir une aussi belle ville que Paris, d'avoir des artistes qui ont ces idées assez extraordinaires aussi pour imaginer des tableaux dans la ville. Donc oui, je raconte à plusieurs reprises que voilà, moi, j'ai eu du baume au cœur quand... on a eu, via l'Olympiade culturelle, dans les différents musées en amont des Jeux, sur les 6 derniers mois avant les Jeux, il y avait plein d'initiatives qui étaient proposées par des artistes et par la population, des associations, des ONG. Et après, bon, même les sportifs se sont mis à être créatifs, mais quelque part, on a senti vraiment sur la dernière année que petit à petit, quand même, il y avait cette envie de réussir et cette envie collective de réussir. Même si dans l'opinion publique, on a senti que c'est vraiment le soir de la cérémonie que tout a basculé.
Oui, et c'est assez joli parce que vous avez réussi un coup de maître quand même. Vous n'avez pas eu de bol, hein, pendant cette préparation des attentats en 2015, donc des grandes questions sur la sécurité, un confinement au passage, l'élection de la maire de Paris, et j'en passais des meilleurs, la brigade financière. Enfin, vous racontez dans ce livre que ça n'a pas été une mince affaire et vous avez réussi un truc incroyable, apaisé, joyeux. Et comme vous le dites, et comme vous le racontez précisément dans ce livre, avec plein de petites anecdotes, où les sportifs se sont mis eux-mêmes à s'investir à des moments donnés où vous ne l'avez pas vu venir. Et puis 12 tableaux qui, effectivement, ont enchanté le monde entier et qui étaient effectivement vraiment magnifiques. Vous racontez aussi comment c'est très difficile de préparer les Jeux Olympiques pour donner envie sans trop raconter, c'est-à-dire non, on défilera pas sur les Champs-Élysées, mais on va pas dire qu'on sera sur des bateaux. Donc vous racontez tout, en fait, le détail de ce boulot de malade mental. Comment vous avez fait pendant 10 ans pour préparer cette cérémonie? Vous avez pris de la coke, vous avez fait quoi, hein?
Tout de suite, la référence. Non, mais encore une fois, je pense qu'on est happé par l'objectif ultime d'être prêt le 26 juillet. Comment on fait? Bon, déjà, on garde beaucoup d'humilité, donc on regarde un peu ce qu'ont fait les autres avant nous. Nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec les équipes de Londres 2012, parce que c'est quand même la référence jusque-là, c'était plutôt les Jeux de Londres 2012, qui avaient été une très belle réussite, et en plus avec une ville un peu comparable à celle de Paris. Donc, il y a eu, dès le départ, j'allais dire, 12-18 mois où les équipes de Londres ont passé beaucoup de temps avec les équipes de Paris 2024 pour essayer de comprendre toutes les difficultés par lesquelles ils étaient passés. Et il y avait beaucoup de similitudes avec ce qu'on a vécu. Alors qu'ils avaient beau nous dire « Attention, là, il y a un piège », on est quand même tombé dedans. Parce que finalement, ben, c'est vrai que c'est des gros bateaux, des grosses organisations, et c'est difficile, mais c'était quand même précieux d'avoir eu cette transmission d'expérience des équipes de Londres. Le CIO, le Comité International Olympique, nous a aussi beaucoup accompagnés en nous listant un petit peu, alors c'était un peu anxiogène, mais il y avait à peu près 3000 risques potentiels de tout ce qui s'était passé dans l'histoire des Jeux, dans les gros événements sportifs, de difficultés donc sur lesquelles, ben, quelque part, il fallait qu'on s'y prépare, parce que ça pouvait aussi nous tomber dessus. Et donc, on a simulé sur les deux dernières années beaucoup d'exercices de préparation en disant, ben, si ce jour-là, il pleut, comment on réagit.
Ça c'était une drôle d'idée d'imaginer qu'il pouvait pleuvoir.
Et en plus, c'est arrivé. mais voilà, on avait à peu près simulé quasiment toutes les situations, ce qui fait que le jour J, quand ça arrive, il y a quand même voilà, un peu plus de sérénité. Ouais. On sait qu'on a passé beaucoup de temps à imaginer quel plan de contingence, de secours, de solutions on peut mettre en œuvre pour réussir à retomber sur nos pattes. Donc on a un peu banalisé le fait qu'il allait se passer des choses et qu'il faudrait qu'on réagisse. Et finalement, les équipes, il ne s'est pas quand même passé grand-chose pendant les Jeux. Donc c'est quand même c'était une vraie satisfaction. Les équipes avaient tellement bien travaillé que globalement, tout était prêt. Mais il s'est quand même passé des choses. Et globalement, ça a été très bien géré parce qu'on s'était préparé comme des athlètes. J'y reviens toujours.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, moi, c'était ma référence. Et je savais qu'on serait fort si, entre guillemets, à l'entraînement, donc en amont, on avait déjà vécu un peu ces situations un peu imprévisibles.
Mais c'est vraiment presque une réflexion philosophique assez intéressante qui invite à regarder le sport comme une façon d'être au monde et de se préparer. Effectivement, de votre livre, on retient ça quand même. Une façon d'anticiper et d'appréhender. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous participez à la réflexion des prochains? Vous transmettez ce que vous savez au prochain?
Tout à fait, ouais. C'est le Comité international olympique qui organise ça. Donc, nous, dès le mois de novembre 2024, donc 2 mois après la fin des Jeux, on a fait une première transmission. Donc, pendant une grosse semaine, thème par thème, on a travaillé avec les équipes de Los Angeles pour essayer vraiment de débriefer tous les enseignements que nous ont portés, ce pourquoi on pensait que ça avait réussi, ce qui aurait pu être amélioré. Et à partir de là, c'est enclenché un cycle de 1 an. Il y a encore des équipes qui sont en train de travailler là-dessus pour, plus de manière très spécifique sur chacun des sujets, accompagner les équipes de Los Angeles pour qu'ils réussissent. Notre objectif maintenant, c'est qu'eux réussissent leur jeu. On croit au jeu. Voilà, globalement, partout sur la planète, on pense que c'est un événement qui a cette force de rassemblement de l'humanité, qui, une fois tous les 4 ans, ça fait du bien de voir ces 200 pays se retrouver à un endroit pour faire des compétitions sportives. Ça donne une image très positive de la société dans laquelle on vit. Et donc, on a envie que les Américains réussissent leur jeu. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est rendu disponible. Moi, j'y suis allé à 3 reprises cette année. J'ai une visioconférence la semaine prochaine encore là-dessus. Donc voilà, il y a des échanges assez réguliers et c'est très bien parce que on espère que c'est utile pour eux. Pour nous, ça avait été utile.
Et sans spoiler, il y aura Tom Cruise ou pas?
Bon, on l'a déjà vu, hein.
Oui, non, mais dans les prochains, il est prévu.
On l'a déjà vu, donc je pense qu'ils vont nous surprendre
avec d'autres personnalités. Mais dans cette transmission, vous dites aussi que ça change tout de jouer à domicile. Vous racontez par exemple en 2012, vous n'êtes pas en France et que ça, c'est un élément qui vous perturbe.
Quand je suis athlète en 2012, non, moi ça me perturbe pas. Ce qui m'a perturbé, c'est en 2005, quand je sais que les Jeux ne se feront pas à Paris mais à Londres. Là, c'est vrai qu'il y avait une immense déception parce que moi j'aurais.
Parce que ça change tout d'être chez.
J'aurais adoré vivre ça une fois. On a vu quand même ce qui s'est passé dans le pays en 2024. Les athlètes français je crois qu'ils ont vécu des émotions qu'ils n'avaient jamais vécues auparavant. Parce que ben, vous avez l'impression qu'il y a 60 millions de personnes qui sont derrière vous, qui vous poussent, qui ont envie que vous réussissiez. Bon, quand on est à l'étranger, c'est pas la même chose. Donc, en tant qu'athlète, c'est une chance de pouvoir vivre ça aussi à la maison, même si j'ai adoré les jeux auxquels j'ai participé à l'étranger. Mais c'est sûr que, bon, en plus, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs des jeux, donc en faire une édition en France aurait été magique. Mais finalement, bon, bah, non seulement j'ai fait les jeux en tant qu'athlète à l'étranger, je les ai organisés en France, donc c'était bien quand même.
Oui, oui, vous en sortez pas mal.
Voilà.
Et vous racontez aussi que à Rio, vous allez à Rio, et là, tout d'un coup, votre regard change sur les Jeux paralympiques, et que ça, ce sera vraiment un de vos plus grands combats pour les JO 2024 en France.
Oui, c'est vrai que ça a été un déclic. Je pense que ça a été un déclic parce que. Moi, je connaissais très bien les Jeux Olympiques pour y avoir participé à 4 reprises. Et puis, voilà, j'avais vu les Jeux de mon frère aussi avant. Donc, les Jeux Olympiques, c'est un univers que je connaissais très bien. Les Jeux Paralympiques, je connaissais pas, en fait, parce que j'avais jamais assisté à des compétitions paralympiques avant les Jeux de 2016 à Rio. Où là, je voulais y aller. Donc, j'étais allé là-bas pour assister en tant que spectateur aux Jeux Paralympiques. Et je me souviens très bien de cette première épreuve à laquelle j'assiste. C'était pour du para-judo. C'était Sandrine Martinet qui, ce jour-là, avait gagné la médaille d'or. Donc en judo, voilà, c'est des athlètes qui sont malvoyants, qui participent. Et j'avais trouvé ça fascinant parce que, bon, déjà, c'était du très haut niveau. Un niveau de performance qui était dans les mêmes catégories de poids. C'était vraiment très, très spectaculaire. Et au-delà de ça, ben, on se retrouve pour la première fois un peu confronté. Moi, j'ai beaucoup de chance dans ma famille. On a peu eu d'accidents ou de personnes en situation de handicap. Donc, c'était la première fois que j'étais vraiment dans cet univers de personnes en situation de handicap. Et en fait, de pouvoir échanger avec eux pendant ces Jeux paralympiques, ben, je me suis rendu compte à quel point cet événement m'avait aussi un peu transformé parce que il avait changé en moi le regard sur le handicap et que je trouvais que c'était un outil très puissant, le sport, pour justement donner une très belle image des personnes en situation de handicap, valoriser ce qu'elles faisaient et ne pas juste les regarder pour ce qu'elles ne pouvaient plus faire. Donc c'était vraiment puissant et c'est vrai qu'à partir de là, et aussi parce que les gens de Londres m'avait dit que leur petite frustration, même si ils avaient déjà réussi des très beaux Jeux paralympiques, c'était de ne pas avoir suffisamment capitalisé sur les Jeux paralympiques. Et donc, voilà, on n'avait pas encore gagné en 2016, là, quand j'étais à Rio, on était encore en compétition, on ne savait pas encore si on allait avoir les Jeux, puisque c'est en 2017 que les Jeux ont été attribués pour 2024. Mais ce jour-là, il y a quand même une lumière qui s'est allumée, en mode, si on les a, il va falloir qu'on ait une vraie stratégie sur les Jeux paralympiques parce que ce sera la première fois que la France va les organiser. On va partir de zéro. Profitons-en pour en faire quelque chose de grand et que ce soit une belle rencontre pour les Français parce que moi, qui pensais bien connaître cet univers-là, ben, aux Jeux paralympiques de Rio, j'ai pris une claque, j'ai pris une leçon, j'ai pris... voilà, des émotions que j'avais jamais ressenties. Donc je suis reparti de là quand même en me disant j'espère qu'on va gagner et ces Jeux paralympiques, on va les transformer. Donc derrière, on a décidé d'avoir pour la première fois le même logo, on a décidé d'avoir les mêmes sites, on a décidé d'avoir la même équipe. On a vraiment changé la manière de fonctionner par rapport aux éditions précédentes pour essayer de nous donner le maximum de chances de réussir les Jeux paralympiques.
Oui, c'est, en fait, c'est les Jeux olympiques.
Exactement. C'est Paris 2024.
Voilà, sans distinction.
Qu'ils soient olympiques ou paralympiques.
Ça, c'est vraiment un
coup. Pour nous, c'était, c'était un message très fort. On ne peut pas les organiser en même temps. Il y a toujours un peu cette question qui revient, parce que ça nécessiterait de doubler le nombre d'infrastructures. Donc, ça coûterait beaucoup plus d'argent. Ça laisserait un impact carbone assez... terrible parce que bon, on n'aurait pas la capacité de réutiliser toutes ces infrastructures. Donc voilà, et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue financier, ça n'a pas de sens de le faire pendant. Donc le modèle avant, après les Jeux paralympiques préfère être après parce que il bénéficie de l'excitation des Jeux Olympiques, et nous on l'a bien vécu, heureusement qu'on les a fait après, parce que avant il y avait quand même on n'avait pas vendu de place en fait pour les Jeux Paralympiques. On a commencé à vendre des places pour les Jeux Paralympiques quand les Jeux Olympiques ont commencé, parce que les gens se sont dit, ah mais si c'est ça les Jeux de Paris, ben nous on veut bien y aller, et en fait s'il ne reste que des places plus que sur les Jeux Paralympiques, on va aller voir les Jeux Paralympiques. Et ça a été au final un record de nombre de spectateurs, et on était très fiers de ça, mais heureusement que c'était après.
Et je le disais tout à l'heure en plaisantant, quand je vous disais comment vous avez tenu le coup pendant 10 ans, parce qu'on voit bien dans votre livre que bon, vous avez déçué, hein, il y a quand même des tensions très fortes, des moments qui sont pas faciles. On imagine bien que vous avez bu en tout cas beaucoup de café. Et vous y revenez, vous dites que il y a beaucoup de clichés sur les JO. Alors, tout à l'heure, je plaisantais en vous disant comment vous avez fait, comment vous avez tenu le coup. Mais il y a beaucoup de clichés. Et donc, on voit bien aussi, vous racontez ça, que... Pendant 10 ans, bon, déjà c'est assez amusant parce que vous dites, à partir du moment où vous avez un poste à responsabilité dans l'organisation des JO, tout d'un coup vous avez plein d'amis. Ça, c'est assez amusant. Et puis vous dites aussi,
après, j'ai plein d'ennemis aussi.
Oui, c'est ça. Vous avez aussi plein d'ennemis. Vous dites aussi que tout d'un coup il y a plein de gens, bon, qui vous prennent à témoin en disant que les problèmes dans la capitale sont liés à la préparation des JO, même quand ça n'a rien à voir. Et puis vous dites aussi que vous découvrez qu'il y a, donc j'y reviens, beaucoup de clichés sur les JO. C'est quoi les clichés sur les JO?
Nous, en tous les cas, quand on a commencé cette aventure, on a senti que les Jeux n'avaient pas forcément très bonne presse. Que les gens avaient un regard assez critique sur cette organisation qui était associée à de la corruption, qui était associée au gigantisme, qui était associée un peu à la gabegie financière et environnementale. Qu'en gros, les Jeux, c'était un peu toujours la même chose, et que c'était un événement qui n'avait pas su se rénover. Enfin, moi, j'ai quand même entendu beaucoup de choses très, très négatives. Et mon défi, c'était d'essayer de dire que les Jeux de Paris ne ressembleraient pas aux éditions précédentes, qu'on allait, nous, organiser un modèle de jeu à la française. Des Jeux qui nous ressemblent, des Jeux dans la ville, des Jeux avec l'ambition de neutralité carbone, avec... l'ambition de parité, avec l'ambition de créer de la valeur, de faire du sens par rapport au lien avec la culture, le patrimoine. C'était mettre en avant le plus beau visage de notre pays grâce au sport. C'était ça notre volonté. Et que c'était pas forcément exactement ce que les gens avaient vu à Rio, à Tokyo, à Londres, à Pékin, à Athènes et ainsi de suite. Et tout nous ramenait à ça. Voilà. Les gens ne voulaient pas tellement s'intéresser à notre projet. C'est ça qui était très difficile et que je raconte dans le livre. C'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on propose, les gens avaient une idée arrêtée sur ce qu'étaient les Jeux, ce que représentaient les Jeux, et disaient de toute manière, ça va être le bordel, donc on va partir. Voilà. Et on va pas rester à Paris, oui, parce que ça va être un massacre, ils vont faire n'importe quoi. Donc ce discours-là, on l'a quand même beaucoup entendu, et c'était très difficile de passer un peu cette barrière de « mais regardez le projet, jugez-nous sur ce qu'on veut faire ». Encore une fois, il a vraiment fallu attendre la cérémonie d'ouverture pour que les gens commencent à regarder, à comprendre, et se disent « ah mais ouais, finalement c'est un peu différent ». Et finalement,
c'était quand même un petit peu le bordel quand même. À part.
Ça a l'air sympa.
Mais une chose est sûre, c'est que ce que vous remettez en question dans votre livre, et c'est assez intéressant, c'est que, évidemment, on se doute bien que sur un événement aussi incroyable que celui-là, où vous recevez des athlètes du monde entier, évidemment, ça va dépasser un peu du budget, évidemment, tout va pas être parfait, évidemment, ça va être le bordel. Enfin, en fait, c'est très compliqué de faire un truc qui, tout d'un coup, ne prenne pas de place, ne déborde pas du cadre, enfin, c'est impossible. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, ces 12 tableaux vont un peu réconcilier les gens avec le fait que, comme vous le dites, ce qui va primer, c'est vraiment les Jeux. Et ça, avant, c'était pas le cas. Et donc, il faut une mentalité d'athlète pour préparer pendant ces 10 ans des Jeux, parce que justement, il faut faire face à ça, à des réflexions qui sont en permanence, des remises en question.
En tous les cas, moi, je me suis appuyé là-dessus. Je dis pas qu'il faut garder ça, parce que chacun, j'imagine, le vit différemment. Mais moi, je me suis beaucoup appuyé sur mon expérience passée d'athlète, où j'ai appris que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on ne se relâche pas et on reste concentré sur l'objectif. Donc, s'il y a des critiques, tant que c'est pas terminé, on lâche pas l'affaire et on avance. Et on essaie aussi de s'appuyer sur des indicateurs que l'on maîtrise, c'est-à-dire que les on dit, les on pense, tout le monde a un avis sur tout dans ce pays. Y compris des gens qui connaissent pas forcément plus que moi sur les Jeux Olympiques, mais qui voulaient m'expliquer comment il fallait faire pour organiser les Jeux Olympiques. Donc nous, on a essayé d'être assez rationnel et de se dire, mettons en place des indicateurs sur la progression des infrastructures, sur l'évolution budgétaire, sur la vente de billetterie, sur voilà, tous les sujets qui sont rationnels, pour savoir si on est dans les temps de passage.
Oui, c'est ça.
Est-ce que ça s'annonce plutôt bien, ou est-ce que, comme le disent tous ces gens-là, on va au massacre? En fait, la réalité, c'est que quand on ouvre la billetterie, même s'il y a eu cette campagne très très dure sur la billetterie, les gens se sont jetés dessus et les billets ils partaient. Quand on a lancé notre programme d'ouverture pour recruter des volontaires, on nous disait, mais vous êtes fous, 40 000 volontaires. Mais jamais dans ce pays, il y a eu un programme de volontaires de 40 000 personnes. C'est énorme. Si vous en trouvez 5 000, c'est déjà énorme. Bon, on a eu 300 000 demandes en 5 semaines. Bon, donc du coup, on avait des indicateurs qui nous disaient, mais en fait, les gens ont plutôt envie d'en être, ont plutôt envie de participer. Et là, je vous parle du moment où on est à 12 mois, à 18 mois avant le début des Jeux. Donc, quelque part, nous, on est restés concentrés à continuer à piloter le projet avec ses indicateurs et à tenir bon jusqu'au bout, quand bien même il y avait des critiques, quand bien même il y avait ce scepticisme. La réalité, c'est que nous, on y croyait, on avait des bonnes raisons d'y croire et on a tenu bon jusqu'à la fin.
Dans ce livre, il y a un autre aspect qui est assez touchant, c'est que vous évoquez la vulnérabilité des sportifs aussi à un moment donné. Il y a, par exemple, dans votre cas, à un moment donné où vous parlez de votre frère et du fait que il faut prendre votre place. Donc je ne reviens pas sur le détail, vous avez qu'à acheter le livre et le lire. C'est assez joli parce que vous dites à ce moment-là, moi j'ai été accompagnée par un psy. Et vous abordez le fait que c'est pas être un héros incroyable que d'être un sportif. C'est pas toujours facile. Il y a des épreuves difficiles, et puis vous racontez comment vous, à un moment donné, vous avez besoin de voir un psy parce que faut trouver votre place, et comme vous le racontez là, faut pas lâcher, mais en même temps, c'est pas toujours rose. Et c'est un joli passage. Vous avez hésité à le mettre dans ce livre, ce passage, ou pas?
Ah non, pas du tout. Non, c'était une étape très importante dans ma construction personnelle. En fait, c'est pour ça que je dis régulièrement dans ce livre et que le titre s'est imposé, c'est que le sport, une fois de plus, m'a fait découvrir cette facette importante de la gestion de ses émotions. Et que moi, pendant une partie de ma carrière, au début de ma carrière sportive, j'étais très irrégulier. J'étais capable de gagner une compétition. Ma première victoire en Coupe du Monde, j'ai 18 ans. C'était génial à cet âge-là de gagner une étape sur le circuit senior. Mais derrière, j'étais capable de terminer dernier pendant 3 Coupes du Monde. Pourtant, je m'étais sûrement pas transformé complètement en quelques semaines. Donc, on comprend assez vite que même si techniquement et physiquement, on est à peu près toujours le même, il doit bien se passer quelque chose pour que y ait une compétition, on est en haut, une compétition, on est tout en bas. Donc, ce truc-là, sur lequel c'est un peu tabou, c'est un peu difficile, parce que c'est du ressenti, c'est des émotions, ça s'apprend, comme tout le reste. On apprend, moi j'ai appris à gérer mes émotions parce que il y a des techniques, il y a des méthodes de respiration, certains font du yoga, il y a plein de méthodes possibles et d'accompagnement. Et moi, c'est vrai que cet accompagnement psychologique dans le cadre du sport, puisque je raconte dans le livre que en fait c'est une personne qui était spécialisée dans le sport, qui accompagnait beaucoup de sportifs. Donc moi, je me suis dit pourquoi pas, après tout, si je peux grâce à ça être meilleur et en apprendre plus sur moi, pourquoi pas. Et en fait, heureusement, parce que j'ai effectivement non seulement appris beaucoup de choses, ça m'a permis de gérer en dehors du sport mes examens, et puis derrière ma vie professionnelle. Et donc oui, le sport a cette vertu de vous pousser à être curieux, de vous pousser à être ambitieux, de vous pousser à essayer d'être meilleur et d'en apprendre sur vous, parce que c'est une quête personnelle. Faut d'abord bien se connaître pour exprimer ce qu'on a de mieux. Et donc, c'est pour ça que je reviens régulièrement à cette dimension sportive qui m'a permis d'aller jusqu'au bout des Jeux, parce que, ben, mine de rien, c'est une belle école que d'avoir fait du sport avant, parce que il y a plein de dimensions que moi, le premier, c'était assez vertigineux quand je me suis lancé dans l'organisation des Jeux. Je savais pas du tout si j'étais à ma place, je savais pas du tout si j'étais légitime. J'avais jamais organisé d'événements de cette ampleur. Mais au fur et à mesure des difficultés, des épreuves, des décisions, des moments importants, bah, j'avais des petites intuitions qui revenaient de ce que j'avais vécu quand j'étais athlète. Même si c'était très différent, bah, j'avais des ressentis qui ressemblaient à ce que j'étais en train de vivre, de ce que j'avais déjà vécu en tant qu'athlète. Et donc, ça m'a aidé à prendre des décisions, parce qu'à un moment donné, quand on vous propose d'arbitrer entre plusieurs options, ben, il faut bien décider, et vous faites comme vous pouvez. Mais au final, je trouve que le sport, moi, m'a donné des valeurs qui m'ont été très utiles en tant qu'organisation des Jeux. Et c'est bien de le dire, parce que quand j'ai arrêté ma carrière sportive, ou plutôt quand j'étais athlète, j'entendais un peu ce discours de « tu verras, ce sera très dur après la fin de ta carrière d'athlète ». Parce que tu es peut-être bon au canoë, mais bon, en dehors,
qu'est-ce que tu vas faire?
Et en fait, on se met des limites soi-même. Et en fait, j'ai trouvé intéressant que certains me tendent la main. C'était Bernard Lapassé, notamment, qui a été le premier à me dire: mais moi, j'ai besoin de toi. Et tu connais rien en politique, tu connais rien en économie, c'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse. Et tu vas apprendre le reste, tu vas l'apprendre. Mais ce que tu as développé comme comportement, comme état d'esprit, ça m'intéresse. Et je pense que le sport a cette vertu, encore une fois, de transmettre des valeurs qui sont quand même très utiles.
Et ce sera ma dernière question, Tony Estanguet. Et effectivement, vous revenez dans votre livre de l'importance des politiques. Vous dites, en fait, là, il n'est pas que question de sport. Il est question des réseaux sociaux, de la presse, de politique. Il est question de lobbying. Il est question de construire des partenaires internationaux, bon, etc. Il y a 400 pages, donc ça va être compliqué de les résumer rapidement. Et vous l'avez dit là à l'instant, qu'est-ce qu'on fait après une carrière sportive aussi incroyable que la vôtre, parce que quand même 3 médailles d'or. Et là, vous avez le blues ou pas? Après avoir organisé cette fête géante?
Ah ben non, au contraire. Non, ça pouvait pas beaucoup mieux se passer quand même. Donc
ça, c'est sûr.
Voilà, j'ai eu un sacré soulagement quand même, pour être honnête avec vous, parce que j'étais quand même un peu dans l'appréhension qu'il se passe quelque chose jusqu'à la fin, et je savais que dans ce pays notamment, on ne retiendrait que ça si s'était passé le moindre couac en termes de transport ou de sécurité ou de quoi que ce soit. Quelque part, on n'aurait parlé que de ça. Donc, c'était un peu un vrai soulagement quand tout s'est terminé, qu'au final, tout s'était bien passé. Donc, la suite, je l'ai très bien vécu, parce que voilà, j'étais tellement content que ce soit fini, que ce soit bien passé, que je me suis très, très bien remis de tout ça. Je suis redescendu dans mon Béarn, vivre à Pau, retrouver les miens, passer du temps avec eux, faire un petit peu plus de sport. Et au bout de quelques mois, on m'a convaincu que c'était intéressant de se lancer dans le fait de raconter cette histoire. Ça m'avait jamais traversé la tête.
Vous avez été ému en écrivant à un moment donné ou à un autre ou pas? Il y a des moments qui vous émeuvent encore dans cette histoire?
Des moments?
Ouais. Parce que vous dites dans votre livre que
il y en a plein.
Que pour les JO, vous vous rendez compte que l'émotion, elle est encore plus forte que ce que vous avez vécu en étant un champion, parce qu'il y a du collectif. En fait. Donc oui, il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un qui est vraiment un truc qui tout d'un coup, en fait, est quand même vous file la chair de poule, quoi.
Ouais, il y en a beaucoup. Très honnêtement, c'est très difficile de choisir. S'il y en a un que je devais vraiment mettre en avant, je pense que ce serait la finale de Cécifoot, le dernier week-end des Jeux paralympiques. On est à moins de 24 heures de la cérémonie de clôture finale. Et je trouve que dans cet instant, il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient très importantes pour nous. Il y a le côté performance. On a l'équipe de France qui est en finale, qui n'a jamais été en finale d'un grand tournoi de Cécifoot, mais qui a fait un tournoi exceptionnel et qui gagne la médaille d'or avec beaucoup de suspense et des tirs au but. C'est dingue. Mais il y a beaucoup plus que ça. On sent une unité. Alors peut-être que c'est exacerbé par le silence qu'il y a dans cette enceinte, parce que pour que le cécifoot puisse se jouer, il faut qu'il y ait le silence absolu, puisque les athlètes aveugles ne peuvent se déplacer qu'au son du ballon. Donc il n'y a pas un bruit dans le public, alors qu'il y a 15 000 personnes. Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de suspense. Et il y a une hola silencieuse dans le stade. Il y a, voilà, il y a des moments un peu suspendus où on se dit, mais là, on est en train de vivre un moment inédit que j'imaginais pas vivre. C'est beaucoup plus beau dans la réalité que ce que je rêvais. Ces Jeux paralympiques, j'en ai rêvé pendant longtemps. Je voulais vraiment que ce soit une réussite. Mais là, ça dépasse parce qu'on sent qu'il y a tout un pays qui est derrière et qui est en train de vivre un moment historique. Donc ce moment-là, pour moi, il a été très fort. Il était proche de la fin. Et ça, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie.
Et nous, on vous remercie d'abord parce qu'on a quand même passé des Jeux Olympiques assez extraordinaires grâce à vous. Et puis aussi parce que là, on vient de passer une heure avec vous qui était assez inédite. Merci, Tony Estanguet.
Merci à vous. Merci.